Bonjour, bonjour à tous. Mardi 29 janvier 2019, il est 9h, c'est le début des voies de service. Bienvenue sur Canal M. Je suis Louis de Bernis, j'ai avec moi Com ce matin. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Ce matin, il n'y a pas de suspense comme parfois c'est le cas. Oui, oui, seulement deux. Yves-Olivier soigne sa gorge. Nous, les nôtres, sont bien là et en forme.
Bien en forme.
Bien en forme. Comment allez-vous ?
Ça va bien, ça va bien. Il fait un peu frais, ça, il neige ce matin.
Oui,
donc, effectivement.
En un seul morceau, ça va ?
Oui, 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 quand même.
Moi, j'ai perdu
un orteil.
pas perdu un orteil, non, ça, heureusement, le froid, ça va bien. Mais alors, j'ai valsé sur une plaque de verglas ce matin.
Voilà.
Beau saut en l'air.
Il en faut au moins une par hiver.
Ah, oui, bah voilà, ça y est, je l'ai. j'étais un peu déçu en relevant les yeux. Il n'y avait pas de juge qui était là pour noter ce vol plané. Mais je suis sûr que c'était gracieux et élégant. Méfiez-vous quand même si vous sortez, car sous la couche de neige, il y a du verglas, c'est peu de le dire. Et nous avons bien des sujets, malgré toutes ces émotions déjà. Nous avons des sujets pour vous ce matin. Quels sont-ils de votre côté ?
Des sujets, ma foi, très, très divers et variés.
Mm-hmm.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé fossiles.
Il faut réaborder la question
des fossiles. C'est ça, quand même. Sinon, on va parler un peu de la mémoire, on va parler de l'alimentation aussi, qui est quand même liée au changement climatique. On va très vite voir pourquoi.
Très bien, très bien. De mon côté, eh bien, des insolites comme d'habitude. Je vous emmène par exemple en Turquie parler de combats et de combats de chameaux. Je ne savais pas que ça existait. Eh bien, je vais vous les présenter. D'autres nouvelles animalières. On parlera d'un gigantesque requin qui a été filmé à Hawaï. C'était il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. Et puis également, eh bien, d'autres brèves insolites. Allez, vous découvrirez tout ça sur le moment. Je ne vous en dis pas plus. Bienvenue dans les voies de service. C'est parti.
Très bien, on va commencer donc par ce fossile. Ça fait longtemps, je trouve, qu'on n'a pas parlé de fossiles. Ça me manquait un petit peu quand
est-ce
même.
Est-ce que vous avez des thèmes comme ça, voilà, qui vous manquent de temps en temps dans votre vie et toutes les 2 ou 3 semaines, il faut en parler.
Il faut absolument en parler. Effectivement, c'est exactement comme ça que
très
ça se passe.
Bien.
J'ai un peu une dépendance à ces sujets. Et on va parler d'un vieux fossile qui a une ressemblance étrange avec l'ornithorynque, qui est lui-même pour le moins étrange.
Déjà, oui, on le remarque, on le reconnaît.
C'est pas l'animal le plus commun. Donc bizarre, c'est effectivement le qualificatif qui colle le mieux à l'ornithorynque, ce drôle de mammifère qui pond des œufs et qui est doté d'un bec de canard et d'une queue de castor. Son apparence est tellement déconcertante que les scientifiques ont cru à une supercherie quand les premières descriptions de l'animal sont tombées entre leurs mains au début du 19e siècle. Bizarre, ce qualificatif pourrait aussi bien convenir à un Eretmorhipis caroldongi, un reptile marin proche des ichthyosaures qui vivait il y a 250 millions d'années, à l'emplacement de la Chine actuelle et dont l'apparence est tout aussi déconcertante. Eretmorhipis mesurait donc environ 70 cm de long, avec un corps long et rigide, une petite tête prolongée d'un bec de canard, comme pour l'ornithorynque, et de minuscules yeux. Il était équipé de 4 nageoires et de plaques osseuses qui ornaient son dos. Cet animal n'était auparavant connu que par des fossiles partiels, sans tête, jusqu'à la découverte de 2 nouveaux fossiles qui font l'objet d'une description dans la revue Scientific Reports. Donc l'analyse du crâne et de la mâchoire indique que l'os du bec soutient une grande plaque cartilagineuse et qu'il existe un grand trou au milieu. 2 caractéristiques retrouvées chez l'ornithorynque, chez qui le cartilage est recouvert de mécanorécepteurs qui lui permettent de chasser au toucher dans les cours d'eau boueux. Il est possible que le bec d'Eretmorhipis remplissait la même fonction, lui qui vivait dans des eaux peu profondes et avait une vision réduite. Impossible de l'affirmer cependant, car aucun fossile n'a été retrouvé avec le ventre plein. Ryosuke Montani, paléontologue à l'université de Californie à Davis et co-auteur de l'étude, estime qu'il devait se nourrir de crevettes et d'autres petits vertébrés. Il précise aussi qu'avec son corps osseux, cet animal-là devait être un piètre nageur qui n'aurait jamais pu survivre de nos jours. Mais il y a 250 millions d'années, la concurrence était moins rude et Eretmorhipis n'avait pas vraiment de prédateurs. En effet, la Terre se remettait encore de l'extinction de la fin du Permien, qui est arrivée il y a 252 millions d'années environ, et qui a vu disparaître 95% des espèces marines et 70% des espèces vertébrées, dont la presque totalité des reptiles. Et 2 millions d'années plus tard, la biodiversité océanique n'était donc pas encore établie et l'Ethmorhipis pouvait évoluer sans aucun rival.
Étonnant, étonnant, effectivement. Partons à présent en Turquie pour vous présenter une chose non moins originale. On connaissait les combats de coqs, les combats de chiens malheureusement aussi. Eh bien, il y a les combats de chameaux, je vous rassure. C'est un peu moins sanglant que les deux précédents que j'ai cités. Et ma foi, bien, c'est vraiment un voyage dans une autre culture que je vous propose ce matin. En Turquie, des chameaux se battent dans l'arène, c'est tiré du soleil. Placés face à face, deux immenses chameaux se jaugent avant de se jeter l'un sur l'autre, la tête la première. Dans cette arène de Selçuk, dans l'ouest de la Turquie, 124 chameaux se succèdent pour de courts combats, une tradition centenaire que les chameliers tentent de préserver. Autour de l'arène, à quelques minutes de la côte égéenne, plus de 2000 personnes se sont installées à de petites tables où elles pique-niquent et encouragent leurs favoris, et en huant les propriétaires qui interviennent trop dans l'affrontement. Chaque bête s'efforce de mordiller les pieds de son adversaire et de le déséquilibrer, leurs longs coups s'entremêlant sous les acclamations de la foule. Les combats, qui ne sont pas dotés de prix, durent quelques minutes et se terminent lorsqu'un chameau renverse l'autre ou le fait fuir. Mon père et mon grand-père avaient des chameaux, c'est une tradition ancestrale. Moi, je n'en ai pas, hélas, mais je vais voir tous les combats, dit Abdullah Alintas, venu avec son épouse assister au spectacle. En Turquie, la culture du chameau remonte à l'époque des Yoruk, un peuple nomade héritier des anciens guerriers Seljoukides, arrivés en Anatolie au XIe siècle. Mais le premier combat organisé formellement dans la région a eu lieu dans les années 1830, selon Devrim Ertuk, sociologue à l'université d'Okuleslük de Selçuk. Après la sédentarisation, les chameaux ont servi à transporter des marchandises, surtout vers les ports de l'ouest de la Turquie. Et les chameliers ont commencé à organiser des affrontements de chameaux dans les caravanserais où ils faisaient étape. Monsieur Ertuk, lui-même propriétaire de chameaux, parmi lesquels un mâle de 2 ans dont il souhaite faire un lutteur. Près de 90 combats ont été programmés cette année dans la région à Antalya entre décembre 2018 et mars 2019, saison de reproduction du chameau, et période creuse pour les habitants de la région alors que l'activité agricole ralentit pour l'hiver. Des associations de défense des droits des animaux appellent, vous en doutez, régulièrement à l'arrêt de ces combats dénonçant leur cruauté. Mais sur place, les organisateurs soutiennent que tout est fait pour protéger les chameaux, notamment en nouant des cordelettes autour de leur bouche pour en limiter l'ouverture et donc les morsures. Pour un chamelier, son chameau est très précieux. Les propriétaires font tout pour qu'il ne lui arrive aucun mal. Beaucoup portent le nom des enfants du chamelier même. Mon père avait donné mon prénom, Devrim, à l'un de ses chameaux, explique un spectateur. Le festival de Selçuk, l'un des plus importants, se tient tous les ans, le troisième week-end de janvier. Le premier jour, certains font défiler leurs champions dans la ville sous les regards des habitants. Les chameaux traversent le marché, parés de tissus colorés brodés à leur nom, de guirlandes, de cloches et de drapeaux turcs. Un jury élit ensuite le plus bel animal. Venu de la province de Mugla, plus au sud, Erol Bilgin, le visage encadré par une casquette plate et une moustache fournie, caresse tendrement son Kara Elmas, son diamant noir, âgé de 9 ans et candidat malheureux au concours de beauté. Évidemment, chacun trouve que son chameau est le plus beau, admet-il, en retirant un bout de paille de l'épaisse fourrure de son animal. Calme, respectueux et sensible, dit-il. La culture des chameaux s'estompe, mais nous souhaitons le faire perdurer. Outre les combats, un symposium international sur les chameaux est organisé depuis 3 ans à Selçuk, avec une centaine de participants à la dernière édition. Selon M. Bakissi, le but est de pérenniser les traditions liées aux chameaux, comme les combats, et les faire même inscrire, si possible, au patrimoine de l'humanité à l'UNESCO. Le lendemain matin, dans le hangar sombre où Kara Elmas a passé la nuit, M. Bilgin s'assure que tout va bien. Nous sommes venus de loin, donc hier il était un peu agité, mais ici il a pu se détendre avant le combat. Autour de l'arène, le public déambule entre les camélidés et les stands de saucisses, certifiés 100% viande de chameau, et grillés sur place pour en faire des sandwichs. Les spectateurs, très majoritairement des hommes, dégustent leur pique-nique dès le matin avec un verre de raki, un alcool anisé, tout en récitant en chœur quelques versets du Coran avant le début des festivités. Nombre de duels de chameaux se terminent en match nul, rassurez-vous, aucun animal ne parvenant à soumettre l'autre. Les propriétaires présents dans l'arène s'emportent parfois, tentant de pousser leurs protégés à se battre lorsque l'animal lui-même semble peu intéressé. À plusieurs reprises, les hommes en viennent aux mains dans l'arène à côté de leur chameau avant d'être rapidement séparés par le service d'ordre. Lorsque le speaker annonce le nom de Kara Elmas, M. Bilgin amène son animal dans l'arène, lui fait faire un petit tour puis le place face à son opposant. Les deux chameaux fondent l'un sur l'autre, se mettant mutuellement à genoux à plusieurs fois, sans réussir toutefois à se renverser. Match nul, un de plus. Les combattants sont séparés, mais M. Bilgin est aux anges. Je suis tellement ému. Il s'est très bien battu au-delà de mes attentes et je suis vraiment fier, caressant le cou de son chameau à l'air imperturbable. Voilà, si jamais vous avez un chameau de compagnie, eh bien écoutez, sachez qu'il y a des festivals chaque année en Turquie.
Alors qu'il serait bien plus simple de faire des courses, non ?
Oui, alors ça c'est dans d'autres pays, mais là ce sont des combats et des combats entre hommes finalement.
Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople, so if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say.
People just liked it better that way.
So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul.
Istanbul.
Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say.
You just liked it better that way.
Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. Now Constantinople, been a long time gone. A Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks.
Constantinople,
no you can't go back to Constantinople, been a long time gone, Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul.
Et on a poursuivi notre périple en Turquie avec la chanson Istanbul, qui était reprise par They Might Be Giants. Petite information sur la chanson qui date de 1953, interprétée à l'origine par The Four Lads, chanson qui a été écrite pour le 500e anniversaire de la chute de Constantinople par l'Empire ottoman. Constantinople, qui fut le nom jadis de Istanbul, cette capitale de Turquie.
Merci beaucoup pour ce point musical, historique, tout y est. Vos trouvailles musicales m'impressionneront toujours, Jean-Sébastien, c'est un plaisir. Parlons à présent un peu moins de Turquie, un peu plus de l'actualité d'hiver, je crois. Ici.
C'est ça, exactement. Quelle est la plus grosse différence entre un homme et un ours ?
Les poils ?
Les poils, même pas sûr. Hein.
Pour certains, non.
Non, c'est peut-être pas la plus grosse, mais l'hibernation, personne hiberne, il me semble, chez les hommes.
Hein.
Certains peuvent dormir assez longtemps, mais pas au point...
On aimerait parfois, mais non.
Mais non, effectivement.
Il faut aller travailler quand même.
Et donc, il y a eu un documentaire diffusé le 26 janvier 2019 sur la télé française, sur Arte précisément, qui s'appelle « Fort comme un ours ». Et qui nous demande pourquoi ces animaux ne développent pas de problèmes de santé liés à la sédentarité après plusieurs mois de somnolence hivernale. Y a-t-il à découvrir chez l'ours des molécules d'intérêt qui pourraient être utiles aux humains ? Donc l'ours fait son yo-yo tous les ans, et il s'en porte comme un charme, comme le constatent les spécialistes danois, suédois, français, américains, filmés dans le passionnant documentaire « Fort comme un ours ». Alors que nous, pauvres humains souffrons de suivre des régimes alimentaires drastiques pour finir par regrossir de plus belle, le fameux yo-yo, accumulons du cholestérol, risquons le diabète, subissons des maladies cardiovasculaires et autres plaies. Notre ami croqueur de saumon, notre ami croqueur de saumon gras, mais aussi de myrtille, va très bien, lui. Et quel est donc son secret ? En effet, chaque année, l'ours, cet animal mythique, se blottit dans une tanière et hiberne pendant 6 mois. Il dort, le cœur au ralenti, tout le corps recroquevillé, les muscles n'ayant aucun effort à fournir. Ce qui intrigue les chercheurs, c'est qu'au printemps, le plantigrade puisse se remettre à gambader et à s'empiffrer. 20 000 kilocalories par jour, 10 fois plus qu'un humain moyen, en prévision de l'hibernation suivante, sans que sa santé en pâtisse. Par quel miracle, ou plutôt par quels mécanismes adaptifs sélectionnés par l'évolution, cette alternance violente de mode de vie été-hiver n'affecte-t-elle pas l'animal ? Y a-t-il à découvrir chez lui des molécules d'intérêt qui pourraient nous aider, nous, humains, à vaincre les maladies dont nous sommes affligés ? C'est à cette énigme que le film réalisé par Thierry Robert et Rémi Marion invite à réfléchir sur le mode aventure et rencontre dans les laboratoires. Les paysages de neige en Suède font instantanément voyager. Que ce soit en raquette, à bord d'hélicoptère ou de motoneige, la caméra mobile autorise le spectateur à s'émerveiller devant la beauté ambiante. Forêt profonde aux troncs alignés, gros flocons en rang serré, lumière blanche et limpide d'hiver, le spectateur est prêt pour que surgisse la magie des lieux. Pas étonnant qu'une chamane aux belles bottes rouges de cuir et revêtue d'une peau d'ours majestueuse entonne une mélopée juchée sur un rebord de falaise. Pendant ce temps, les scientifiques accompagnés de vétérinaires se concentrent, eux, sur la localisation d'un jeune ours en hibernation, qu'ils doivent retrouver grâce à un dispositif GPS installé des mois auparavant sur l'animal. Objectif, le sortir de sa tanière pendant 1 heure, pas plus, afin de prélever sang, petits échantillons de muscles et toute information utile, rythme cardiaque par exemple. On les suit dans leur quête, enthousiastes, et on est triste pour eux quand leur matériel se révèle défaillant dans ces conditions hostiles. A noter, l'animal n'est en aucune manière malmené. Il a été choisi pour que l'expérience ne l'altère en rien. En Suède, 543 ours ont été suivis depuis 1984 avec respect, sous contrôle du comité d'éthique de l'Institut Karolinska. Et leur population était de 300 il y a 30 ans. Elle a désormais grimpé à 3000 individus. Aucun ours n'a été violenté ni traumatisé lors du tournage, assure la directrice de production Marie Bézard. Inspectant l'animal qu'ils ont enfin découvert dans sa tanière, on voit les spécialistes constater le ralentissement du cœur. Il peut aller à la limite de l'insuffisance cardiaque, a mesuré le cardiologue Peter Gotsk. Alors qu'en été, le pouls est semblable à celui d'un humain, il tombe à 20 à 25 pulsations par minute en hiver, avec parfois de longues pauses où il s'arrête de battre pendant 19 secondes. À nous, humains, cela serait fatal. Précision du spécialiste, la composition même du sang de l'ours change, ce qui permet un contrôle de la coagulation. Étienne Lefay, du laboratoire Carmen à Lyon, que l'on voit à l'écran pratiquer un prélèvement de tissu adipeux, s'interroge, lui, sur la capacité de l'animal inactif pendant l'hibernation à ne perdre que très peu de muscles. Comprendre comment il conserve sa musculature intacte alors qu'il est immobile pourrait permettre de découvrir de nouvelles pistes thérapeutiques pour lutter contre l'atrophie musculaire, a précisé le scientifique à Science et Avenir. Lors de la projection en avant-première du film à Paris, des résultats potentiellement très importants pour les personnes âgées aussi, pour les astronautes en vol de longue durée, à bord de la Station Spatiale Internationale ou vers la planète Mars. C'est ainsi qu'au laboratoire, ont pu être découvertes des protéines qui favorisent une augmentation spectaculaire de la taille des cellules musculaires, ce que montre très clairement le documentaire. Fabrice Bertil, de l'IPHC à Strasbourg, lui aussi, est embarqué dans l'aventure, et tout aussi admiratif des capacités incroyables de l'ours. Les premières observations de l'animal ont eu lieu à la fin des années 70, nous a-t-il rappelé. Sauf qu'aujourd'hui, le biomimétisme est à la mode. Du coup, les recherches adoptent une stratégie bio-inspirée de lutte contre l'atrophie des muscles chez l'homme. Si certaines molécules se révèlent capables d'agir en franchissant la barrière des espèces, il faut les identifier, ce qui pourrait ultérieurement conduire à des traitements innovants. Un dernier conseil pour finir, si l'ours vous a conquis, n'adoptez pas pour autant son régime. Et gare à l'obésité, 70 kg de saumon et 90 kg de myrtille par jour, cela fait beaucoup.
Effectivement, la nature nous surprendra et nous impressionnera toujours. Je ne citerai pas de nom, mais quand même, il y a certains humains. Moi, j'ai eu des colocataires qui, en hiver, les fins de semaine, disparaissaient sur leur couette. Et un régime à base de Nutella, ma foi, pendant deux jours. Aussi, hein. C'était des cycles plus courts, voilà, c'est tout. Merci, Com, très intéressant. Comme sans vouloir poser de questions trop indiscrètes, avez-vous des appareils connectés chez vous? Êtes-vous dans le 21e siècle de ce point de vue-là?
Le téléphone, j'imagine.
Le téléphone, mais avez-vous, vous savez, il y a des assistants parfois personnels.
Non, je n'ai pas, j'ai rien de tout ça, les Google Home ou les choses comme ça.
Des choses
non,
comme ça.
Je n'en ai pas. Mon coloc en a par contre.
Ouais. Ah, d'accord. Bah, peut-être allez-vous être dans la situation qu'ont vécu certaines familles américaines récemment. Une situation un peu effrayante, mais bon, tout est bien qui finit bien, heureusement. Une caméra connectée de maison effraie une famille avec l'annonce d'une attaque nucléaire, rien de moins. Un système de domotique connecté qui annonce une attaque nucléaire ou menace de kidnapper votre bébé même. Ces mésaventures sont arrivées récemment à des familles américaines dont le mot de passe protégeant leur caméra de sécurité avait été piraté. Un couple vivant près de San Francisco, en Californie, a raconté à des médias locaux avoir connu le moment de terreur pure il y a quelques jours lorsque leur caméra de sécurité de marque Nest, pour ne pas la citer, placée sur le haut de leur téléviseur, a diffusé un message criant de réalisme avertissant d'une attaque de missiles nucléaires nord-coréens. Oui, forcément, nord-coréens. Le couple, pardon, a finalement compris qu'il s'agissait d'une farce de mauvais goût provenant de hackers qui étaient parvenus à pirater le mot de passe de leur compte Nest et à prendre le contrôle du haut-parleur de la caméra. Cette filiale du géant Alphabet Google a encouragé ses clients à renforcer la protection de leur système via une authentification à deux facteurs, par exemple un mot de passe et ensuite un code envoyé par texto. Mais Nest n'a pas été piraté, a affirmé l'entreprise, expliquant que les incidents rapportés ces derniers mois de caméras piratées étaient dus au vol de mots de passe sur des sites internet tiers. Selon Nest, les clients utilisaient des mots de passe compromis rendus piratables via des failles sur d'autres sites internet. Parmi les autres incidents rapportés, un pirate menaçant d'enlever un bébé ou un autre informant le propriétaire que ses données personnelles avaient été piratées. Nest scrute en permanence les énormes quantités de données personnelles volées et publiées sur Internet, à la recherche d'adresses courriel ou de mots de passe utilisés par ses clients. En cas de problème, elle les prévient de changer de mot de passe, mais compte tenu de la masse de données volées en circulation, le processus peut être parfois long. La maison connectée est un marché en plein essor et de nombreux foyers américains disposent de haut-parleurs caméras plutôt, ou encore sonnettes connectées et certaines deviennent donc parfois incontrôlables et annoncent l'apocalypse.
Bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celles de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Y'a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, palpant avec amour ses atomes d'hydrogène. Pour se distraire, sa mère lui mit des pétards sous son lit, mais il sourit à peine. Et puis un jour qu'il essayait de faire sauter le poulailler, il prit tout en pleine gueule. Alors couvert de sparadrap, en buvant son tilleul, tonton nous déclara: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Y'a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sa chambre chez le résultat. Tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé de tous ses personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné, et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, en mon âme et conscience, qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant lui fit immédiatement élever un monument.
La Java des bombes atomiques, un grand classique de Boris Vian, 1955 aussi, le hasard fait bien les choses, comme la chanson précédente, c'était Olivia Ruiz qui nous offrait cette version de La Java des bombes atomiques.
La Java des bombes atomiques, j'aime beaucoup le titre.
On va enchaîner très rapidement, donc vous parliez effectivement de sécurité, je vais vous donner la liste des mots de passe utilisés en 2018 qui ne sont pas très très efficaces.
Pas recommandé,
c'est Splash Data sur une société de gestion de mots de passe américaine qui a dévoilé son palmarès des termes les moins sécurisés et utilisés par les internautes en 2018. Mm-hmm. Donc on peut retrouver des choses comme 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oui, forcément.
Voilà. Password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, donc ça à éviter. Les Sunshine, QWERTY, I love you, Princess, ce genre de choses sont effectivement peu recommandées. Je vais juste vous lire la suite de l'article qui vous dit comment créer un bon mot de passe, mm-hmm. ce qui peut servir. Donc selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, une règle simple pour générer un mot de passe fort consiste à retenir une phrase qui va servir de support à votre mot de passe, soit de manière phonétique, exemple « j'ai acheté 8 CD pour 100 euros cet après-midi » deviendra la lettre « G, H, T, 8 CD, etc. etc. » Soit en utilisant la méthode des premières lettres, avec toujours la même phrase, j'ai acheté 8 CD, et vous prenez la première lettre de chaque mot. Mmh. Et notez qu'il est également possible d'avoir recours à un service de gestion de mots de passe. Le principe consiste à stocker tous vos mots de passe dans un service centralisé qui se chargera de vous connecter automatiquement sur les sites qui demandent une authentification.
Effectivement, merci. Donc prenez garde à la sécurité en ligne, ça peut avoir des répercussions inquiétantes parfois. Protégez-vous, même sur Internet, partout. On revient dans quelques instants dans les voies de service. Nous sommes de retour, voilà, pour la deuxième partie de cette émission avec plein de petits sujets. Allons-y, commençons sans plus tarder. Nous sommes encore en janvier, il est encore temps de se souhaiter la bonne année. Certains ont commencé l'année, certains peut-être un peu fatigués de la veille par le réveillon, certains bien reposés, pétris de bonnes intentions. Et il y en a un qui a commencé l'année KO et qui l'avait bien cherché. Ça s'est passé en début de mois du côté du Brésil. Un homme qui tentait de voler un téléphone portable mis KO par une championne de MMA. Pour rappel, le MMA, Mixed Martial Arts, c'est cette discipline qui mixe tous les arts martiaux. Ce ne sont pas des rigolos, le moins qu'on puisse dire. Une combattante de MMA a failli être la victime d'un vol à l'arraché. Samedi, c'était le premier samedi du mois, dans les rues de Rio. Mais Poliana Viana, c'est son nom, a su maîtriser avec sang-froid son agresseur qui a, pour finir, lui-même demandé qu'elle appelle la police de peur qu'elle ne s'acharne sur lui. Les rues de Rio de Janeiro ne sont plus sûres pour les voleurs à l'arraché de téléphones portables. L'un d'eux en a fait l'amère expérience samedi, début de mois, dans le quartier de Jacarepaguá, à l'ouest de la cité merveilleuse. Il est 20h lorsque Poliana Viana, jeune femme de 26 ans, attend son taxi assise au pied de son immeuble. Elle sent alors un homme s'approcher d'elle. Quand je l'ai vu, il était vraiment tout prêt. Il m'a demandé l'heure, je lui ai donné, mais il n'a pas bougé. « Donne-moi ton téléphone, ne bouge pas, je suis armé », a-t-il dit. Il a fait le geste de mettre sa main sur un pistolet, mais je me suis rendu compte que l'objet était trop mou. Il était vraiment très près, alors je me suis dit « Si c'est une arme, il n'aura pas le temps de tirer ». Alors je me suis levé et je lui ai envoyé deux coups de poing et un coup de pied. Et puis après un étranglement arrière, je l'ai assis au sol et je lui ai dit « Maintenant, on attend la police ». Poliana Viana est une combattante pro de MMA. Elle compte 10 victoires pour seulement 2 défaites. En attendant les renforts, la Brésilienne a immobilisé son agresseur avec une clé de bras. La police a d'abord conduit l'homme aux urgences, pour commencer, avant de l'emmener au poste, il en avait besoin, et de prendre la plainte de Viana, qui a su rester calme. Ça a été, car il n'a pas du tout réagi après avoir pris les coups de poing. Je pense qu'il a eu peur. Il m'a demandé de le laisser partir, je lui ai dit non. C'est lui qui m'a alors demandé d'appeler la police. Il a eu peur que je le frappe davantage, je pense, a expliqué la jeune femme, qui, le lendemain, avait un peu mal aux mains, la pauvre. La jeune femme, sans combat programmé pour le moment à l'UFC, a enregistré sur Twitter le soutien du boss de l'organisation. L'UFC, l'organisation internationale, l'organisation américaine des combats de MMA. Elle devrait rapidement trouver un combat après ce buzz. Le visage tuméfié de l'agresseur en dit long sur les aptitudes de Poliana Viana. Et effectivement, quelques photos ont circulé dans la presse. Il a commencé l'année avec des bleus, le monsieur. Parlons santé à présent, je crois. Est-ce encore pour les ours ou pour les humains cette fois-ci ?
Non, cette fois, c'est pour nous. Cette fois, c'est pour nous. D'accord. Et c'est une manière de parler santé et prise de conscience un petit peu, parce que ça fait du bien d'en parler de temps en temps. Mm-hmm. Obésité, sous-alimentation et changement climatique sont les trois facettes d'une même menace pour l'humanité. Une syndémie mondiale qu'il faut combattre globalement, d'après le rapport de la commission d'experts de la prestigieuse revue The Lancet. Selon eux, les multinationales de l'alimentaire, appelées Big Food, doivent être encadrées, comme l'ont été celles du tabac. Ce nouveau document au ton engagé est la suite d'une première étude consacrée au lien entre alimentation et environnement, parue le 17 janvier 2019 dans The Lancet. Elle préconisait de diviser par deux la consommation mondiale de viande rouge et de sucre, et de doubler celle de fruits, légumes et noix. Issu des travaux de 43 experts de 14 pays, ce nouveau rapport enfonce le clou. Ces 20 dernières années, obésité, dénutrition et changement climatique ont été considérés séparément et la lenteur des réponses politiques est inacceptable. Le système alimentaire est non seulement responsable des pandémies d'obésité et de dénutrition, mais génère aussi 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre, expliquent les experts. Il pointe en particulier l'élevage de bétail, mais aussi les transports dominés par la voiture, qui favorisent un mode de vie sédentaire tout en générant de 14 à 25% des émissions de gaz à effet de serre. Si on ne fait rien, on estime que d'ici 2050, la demande globale d'aliments et d'aliments pour animaux augmentera respectivement de 50 et 70%, explique le docteur Sabine Kleinhardt, pédiatre, et le professeur Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, dans un commentaire publié dans la même revue. Une perspective dont il prévoit qu'elle accélérera la déforestation, la disparition des espèces, la destruction des forêts et le changement climatique. Les conséquences seront particulièrement dramatiques pour les pays les plus pauvres et pour les populations les plus démunies au sein de chaque pays, avertissent les auteurs. Les phénomènes climatiques extrêmes, comme les sécheresses, pourraient ainsi à la fois priver certaines populations de nourriture et faire monter le prix des fruits et légumes, ce qui augmenterait la consommation d'aliments industriels. D'ores et déjà, la malnutrition sous toutes ses formes, y compris l'obésité, la dénutrition et d'autres risques alimentaires, est la principale cause de mauvaise santé dans le monde. Dans un proche avenir, les effets du changement climatique sur la santé aggraveront considérablement ces problèmes de santé. L'excès de poids corporel toucherait 2 milliards de personnes dans le monde, causant 4 millions de décès, pour un coût annuel de 2 milliards de dollars, soit 2,8% du PIB mondial. Parallèlement, 815 millions de personnes souffrent de sous-alimentation chronique. En Afrique et en Asie, la dénutrition coûte entre 4 et 11% du PIB. L'obésité est encore considérée par certains comme une responsabilité individuelle, résultant de choix et de motivations erronées. Cette vision n'est pas acceptable. L'obésité est souvent un trouble chronique et progressif, menant à une mauvaise santé, à une stigmatisation injustifiée, à une mortalité accrue, écrivent le docteur Kleinhardt et le professeur Horton. Il cite alors un indice de masse, corporelle élevé, augmenté de 36,7% entre 2007 et 2017, et de 127% entre 1990 et 2017, soit l'un des taux de croissance les plus élevés parmi les facteurs de risque évalués. En 2017, l'IMC élevé a ainsi entraîné 472 millions de décès dans le monde, faisant de l'excès de poids le quatrième facteur de risque de mortalité, derrière l'hypertension, le tabac et le diabète. La gouvernance au niveau des pays et des villes est importante, mais elle est généralement fragmentée, bloquée dans des silos, souvent centrée sur le choix de chacun, et incapable ou peu disposé à se démarquer d'une influence commerciale et d'objectifs politiques à court terme. Le modèle commercial dominant des grandes entreprises internationales du secteur des produits alimentaires et des boissons, qui vise à maximiser les profits à court terme, entraîne une surconsommation d'aliments et de boissons pauvres en éléments nutritifs dans les pays à revenus élevés et de plus en plus dans les pays à revenus faibles ou moyens. En 2016 et 2017, le secteur des boissons sucrées aux États-Unis a dépensé 50 millions de dollars en lobbying pour contrer des mesures destinées à diminuer la consommation de soda, établit le rapport. Pour les auteurs du rapport, les multinationales de l'alimentaire doivent être encadrées, de la même manière que celles du tabac. Ils proposent la création d'une convention cadre sur les systèmes alimentaires, calquée sur la convention cadre pour la lutte anti-tabac. Ce texte, adopté en 2003 par l'Organisation mondiale de la santé, vise à réduire la consommation de tabac, mais aussi à lutter contre le lobbying dans cette industrie pour limiter son influence sur les politiques publiques. Les points communs entre industrie de la malbouffe et celle du tabac sont les dégâts qu'elle provoque et le comportement des entreprises qui en tirent profit, explique l'un des auteurs, le professeur William Dietz. La commission appelle également à la réallocation de 5 000 milliards de dollars américains en subventions gouvernementales vers des produits nocifs ou profits de solutions de remplacement durable. Enfin, les experts recommandent une combinaison de politiques de santé publique et des politiques budgétaires et fiscales donc de financement des modes de production durables, taxes pour faire baisser la consommation de viande rouge ou favoriser le transport non motorisé.
Des vastes questions de société et petites anecdotes que j'ai cru lire ici et là ces derniers jours. On connaît tous le tofu, ce qui n'était pas le cas pour la plupart d'entre nous il y a peut-être 15-20 ans. Et je crois que le tofu va être, pendant un court laps de temps, en pénurie au Québec là ces derniers jours.
Surconsommation de tofu.
Oui, ouais. Les gens ici au Québec sont peut-être un peu trop concernés, et tant mieux, par les questions d'alimentation.
Très bien.
De loin, de plus loin encore que la vague annonée, de plus loin encore que l'étoile filante du doute, venir de l'on ne se souvient plus, venir les mains vides, poitrine trouée sans raison, et repartir sans plus de raison, les mains vides, poitrine trouée. De plus loin encore que la vague anonyme, de plus loin encore que l'étoile filante toute, venir de l'on ne se souvient plus, venir les mains vides, poitrine trouée, poitrine trouée. De encore que l'étoile filante doute. Venir de l'on ne se souvient plus, venir les mains vides, poitrine trouée. De plus loin encore que la vague anonyme, de plus loin encore que l'étoile filante toute. Venir de l'on ne se souvient plus, venir les mains vides, poitrine trouée.
Thomas Hellman chante Roland Giguère, c'est à la fois le titre de l'album de Thomas Hellman, et sans grande surprise, eh bien, il chante les poèmes de Roland Giguère. On vient d'entendre la pièce Les Démunis.
Les Démunis, merci Jean-Sébastien, merci. Nous sommes à moins d'un mois des Oscars, ou à peu près un mois des Oscars. On est en hiver, c'est la période des récompenses, c'est la période où on regarde la télé dans toutes les sphères de la vie publique, les gens sont récompensés. Et je vous parle de l'Australien de l'année qui a été choisi. Et c'est même une Australienne. Dans la course pour désigner un Australien modèle, pardon, ayant prouvé son ardeur au travail, sa ténacité et son honnêteté, un journal australien a estimé que seul un cheval, en l'occurrence une jument, tenait la corde. Et donc voilà, l'Australien de l'année, c'est une jument. Le Daily Telegraph a proclamé jeudi que l'Australien de l'année était Winx, un pur sang vainqueur de multiples courses, jugeant qu'il manquait de candidats humains dignes du titre, tant dans les domaines sportifs et politiques que culturels et universitaires. Évelant. Le lauréat correspond-il aux valeurs australiennes que sont le fair-play et la courtoisie, s'interroge le journal, avant d'énumérer une longue liste des qualités exigées pour mériter le titre. La jument, qui devrait prendre sa retraite après avoir remporté des dizaines de courses, est le seul à répondre à tous ces critères, assure le journal de Sydney. La décision de le couronner n'a pas été prise à la légère. Cette annonce survient à la veille de la cérémonie officielle de désignation de l'Australien de l'année, événement majeur organisé un jour avant la fête nationale du 26 janvier, qui commémore l'arrivée des premiers colons britanniques en 1788. Parmi les lauréats passés figurent des scientifiques récompensés des prix Nobel, ainsi que l'acteur Paul Hogan, alias Crocodile Dundee. Et donc cette année, eh bien, ce sera Winx, la jument.
Ça change un petit peu, hein, qu'il ne faut pas que des hommes.
Voilà, des femmes, ça fait du bien aussi.
Des femmes et des animaux, et ce qu'on veut.
Tout ce qu'on veut.
On va changer un petit peu de décor, on va parler d'enfer sur Terre. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Rassurez-vous, rien en ce moment,
oui,
à part la neige à Montréal, c'est pas ça dont on va parler, non. Non, c'était plutôt il y a 66 millions d'années, donc il y a quand même un petit peu de temps. Ça pourrait revenir, faisons attention. Des ondes de choc, des tremblements de terre, de gigantesques incendies, des éruptions exceptionnelles, ainsi qu'un épais nuage de suie et de poussière, obscurcissant le ciel et bloquant les rayons du soleil pendant des années. La météorite de Chicxulub, qui s'est écrasée sur Terre il y a 66 millions d'années, dans l'actuelle péninsule du Yucatan, au sud-est du Mexique, a engendré des conditions dantesques provoquant l'extinction de 50 à 75% des espèces vivantes, dont les dinosaures non aviaires. Ce qu'on ne savait pas en revanche, c'est que cet impact aurait provoqué un incroyable tsunami, avec une première vague avoisinant 1,5 km de haut. Essayons de prendre un peu conscience de ce que ça fait une vague d'un kilomètre et demi de haut. À notre connaissance, nous sommes les premiers à avoir modélisé le tsunami de façon globale, depuis l'impact jusqu'aux dernières ondes qui se sont propagées, a précisé Molly Range, chercheuse à l'Université du Michigan. Avec ses collègues de l'Université de Princeton, de l'Université Brown et du Massachusetts Institute of Technology, elle a présenté ses travaux lors de la dernière réunion annuelle de l'Union américaine de géophysique à Washington, qui seront bientôt publiées dans une revue scientifique. Un premier modèle s'est attaché à reproduire ce qu'il s'est passé lors des 10 premières minutes, en fonction de la topographie du lieu d'impact et de la croûte, océanique, telle qu'elle devait se présenter à la fin du Crétacé. Lorsque la météorite de 14 km de diamètre, soit un petit peu moins que la taille de Paris, a percuté les eaux côtières peu profondes, elle a créé un cratère de plus d'un kilomètre de profondeur. Le souffle a été si puissant que ce dernier a été complètement asséché pendant quelques instants, mais l'eau s'est précipitée ensuite à l'intérieur du cratère avant d'en ressortir sous la forme d'une colossale vague d'effondrement. Un second modèle a permis de simuler les effets à plus long terme, et il montre donc que de nouvelles séries de vagues allant jusqu'à 100 mètres de hauteur et se propageant à la vitesse de 140 km/h ont déferlé dans le golfe du Mexique. Mais en passant notamment par la bande de terre qui sépare l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, la houle atteint en moins de 24 heures tous les océans de la planète, déplaçant d'immenses quantités de sédiments et provoquant des phénomènes d'érosion, ainsi que des murs d'eau de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres dans l'Atlantique Nord ou le Pacifique Sud. Selon les chercheurs, ce tsunami aurait véhiculé pendant les 7 premières heures suivant l'impact jusqu'à 29 000 fois plus d'énergie que celui qui a ravagé l'Indonésie en 2004, occasionnant alors près de 230 000 morts. Ça fait une belle vague à surfer, je pense, pour les amateurs.
Oui, les éléments naturels se déchaînent. Heureusement, c'est un peu plus calme par les temps qui courent.
Depuis peu de temps.
Dis-moi pourquoi les animaux, dis-moi comment les hologrammes, y a-t-il un trou dans le pôle Nord, où sont allés les dinosaures, où sont allés les dinosaures? Dis-moi par où les éléphants, dis-moi combien de papillons, pourquoi toujours peur de la mort, où sont allés les dinosaures, où sont allés les dinosaures? Amour, amour, où est la clé, pourquoi toujours les yeux mouillés, combien de rêves avant l'aurore, où sont allés les dinosaures? Qui ces phrases apprises par cœur, pourquoi les cœurs épris d'eux-mêmes, pourquoi les absents toujours en tort, où sont allés les dinosaures, où sont allés les dinosaures? Dis-moi pourquoi les pneus qui brûlent, dis-moi combien de soldats fous, y a-t-il une trêve avant la mort? Les yeux mouillés, combien de rêves avant l'aurore, où sont allés les dinosaures? Donne-moi le nom d'un homme heureux, quelle est la vraie couleur de l'or, où sont allés les dinosaures, où sont allés les dinosaures? Qui a caché les dinosaures, qui a caché les dinosaures? Amour, amour, où est la clé, pourquoi toujours les yeux mouillés, combien de rêves avant l'or? Amour, amour, où est la clé? Pourquoi toujours les yeux mouillés? Combien de rêves avant l'aurore? Où sont allés les dinosaures?
jusqu'à date dans cette émission. Il a été question de fossiles, il a été question d'astéroïdes qui détruisent la vie il y a plusieurs milliers d'années. Je n'ai donc pas pu m'empêcher de nous faire y entendre cette pièce de Michel Rivard, Les dinosaures, de son album de 1992, Le goût de l'eau.
Merci Jean-Sébastien. Où sont allés les dinosaures? Et avec une telle vague que vous nous avez décrite, où sont allés aussi les animaux marins, les requins, ça a dû brasser, comme on dit, avec un tel mouvement. Eh bien, en tout cas, ils n'ont pas tous disparu, ça on le sait. Il en reste des requins et il en reste des très impressionnants qui peuvent être observés. Un gigantesque requin blanc filmé près de Hawaï, c'était il y a une semaine et demie à peu près. Honolulu, deux chercheurs qui ont nagé avec un des plus gros requins blancs jamais vus réclament de nouvelles lois pour protéger l'animal dans les eaux hawaïennes. La vidéo de leur rencontre a maintenant été vue des centaines de milliers de fois sur Internet. L'experte Ocean Ramsey a dit à l'Associated Press que le requin faisait probablement 20 mètres de long et 6 mètres de large. Elle l'a rencontré près de la carcasse d'un grand cachalot au large des côtes d'Oahu. La rencontre a été filmée par le fiancé de Madame Ramsey, Juan Oliphant. Madame Ramsey croit qu'il pourrait s'agir de Deep Blue, une femelle spectaculaire qu'elle avait déjà rencontrée près de Guadalupe Island, au Mexique. Mais si ce n'est pas Deep Blue, a poursuivi Madame Ramsey, il serait tout aussi excitant de penser qu'il y a un autre grand requin blanc de cette taille en liberté, compte tenu du déclin de la population de l'animal. Les requins ne sont protégés par aucune loi fédérale américaine, mais une loi interdit la vente de leurs ailerons. Il n'y a pas beaucoup de sympathie pour les requins en raison de la façon dont on les présente dans la presse et ils ne sont pas mignons, a déploré Madame Ramsey. On ne peut pas les détester parce que ce sont des prédateurs. On a besoin d'eux pour un écosystème en santé. A noter que les requins-tigres, les nombreux requins-tigres qui se nourrissaient eux aussi de la carcasse du cachalot, se sont bizarrement volatilisés quand le géant est arrivé, a-t-elle révélé. Et si vous avez l'occasion d'aller voir sur internet des photos ou la vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, c'est absolument impressionnant.
Oui, effectivement, pour l'avoir vu, il est quand même très très grand. Et on va terminer tranquillement, je pense, avec l'addiction. Est-ce que vous êtes addict à quelque chose, Louis, en particulier ?
On est tous addicts. Ce serait mentir que de prétendre le contraire. Addict, oui, probablement. Au téléphone, c'est une des premières choses que je fais le matin. Addict à quoi d'autre ? Aux pâtes. Allez, j'aime beaucoup les pâtes. Je reconnais que j'en mange régulièrement.
Qu'est-ce qui fait qu'une personne développe ou non une addiction incontrôlable à une drogue? Alors on dit une drogue, mais je pense que ça peut s'appliquer pour beaucoup d'autres choses. Mmh. C'est la question à laquelle répond une équipe de chercheurs de l'université de Genève dans une étude publiée dans la revue Nature. Ils ont en effet identifié de façon très précise chez la souris les voies neuronales spécifiques qui transforment une dépendance contrôlable en une addiction délétère. En effet, les spécialistes distinguent la dépendance de l'addiction. La dépendance signifie qu'un sevrage sera nécessaire, mais elle n'entraîne pas forcément une addiction, soit le besoin compulsif de consommer. Par exemple, tout le monde devient dépendant à l'héroïne dès les premières injections, mais tout le monde n'en consomme pas de manière incontrôlée, précise Christian Loucher, professeur au département des neurosciences fondamentales de la faculté de médecine et chercheur au département des neurosciences cliniques des hôpitaux universitaires de Genève. Une différence de taille qui change la donne. On peut en effet être dépendant à une substance et la consommer de façon récréative pendant plusieurs années. Mais l'addiction envahit littéralement la vie de celui qui en est victime, qui consommera de façon incontrôlée en dépit des effets néfastes que la dite substance provoque. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi une personne devient accro aux drogues alors qu'une autre non. Mais grâce à cette étude, nous savons quelles sont les différences au niveau du fonctionnement cérébral entre ces deux catégories, s'enthousiasme Christian Loucher. Pour identifier ces différences, son équipe a d'abord laissé des groupes de souris alimenter leur dépendance sans contrainte, en activant un levier permettant de stimuler le système de la récompense chez les rongeurs. Jusqu'au jour où les chercheurs ont introduit les effets négatifs. Au lieu d'assouvir leur dépendance sans conséquence, les souris recevaient à chaque fois une légère décharge électrique, afin de pouvoir observer quelles souris sombreront dans une consommation compulsive. Il faut introduire un effet négatif lors de la stimulation de leur système de récompense, explique Vincent Pascoli, premier auteur de l'étude. L'introduction de cette punition a conduit 40% des souris à se détourner de leur dépendance, tandis que les autres sombraient, elles, dans l'addiction. Autrement dit, elle continuait à activer le levier en sachant pertinemment que les conséquences seraient désagréables. Ainsi, grâce à une nouvelle technique permettant de mesurer en direct l'activité dans le cerveau, nous avons découvert un circuit beaucoup plus actif chez les souris accros que chez les souris à consommation contrôlée, relève Christian Lucher. Une découverte qu'ils ont vérifiée en augmentant l'activité de ce circuit, de l'addiction dans le cerveau de souris capable de contrôler leur dépendance. Résultat, ces dernières ont rejoint les 60% d'accros. Inversement, nous avons diminué l'activité du circuit chez une souris accro et celle-ci a cessé d'activer le levier, se réjouit Vincent Pascoli. En théorie donc, il serait possible d'agir sur les addictions en passant directement par le cerveau.
Intéressant, et il faudrait sans doute que j'aille en lire plus pour le savoir, mais je me demandais si c'était possible d'avoir plusieurs addictions à des choses différentes en même temps, ou si c'est tellement puissant qu'on peut en avoir qu'une seule finalement.
Oh, je pense que non, plusieurs sont possibles.
Bon, alors méfions-nous de tout ce qui peut rendre addictif. C'est la fin de cette émission, merci Com pour ces sujets fort intéressants comme d'habitude, merci Jean-Sébastien pour la mise en onde, les choix musicaux et les rappels historiques, maintenant vous faites ça aussi. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.
À bientôt.